Bonjour, nous sommes le mardi 17 décembre 2024. Nanit Talani au micro pour vous souhaiter la bienvenue à cette édition du Monde aujourd'hui. Au sommaire, Mali, l'armée dit avoir capturé un chef de l'EIGS lors d'une opération dans l'est du pays. Mali toujours, un universitaire condamné à 2 ans de prison pour critique du régime militaire. Burundi, une journaliste condamnée à près de 2 ans de prison pour atteinte à l'intégrité du pays. Soudan, la guerre civile persiste, la communauté internationale appelle à plus d'action. Conflit Russie-Ukraine, Donald Trump propose de négocier avec Poutine et Zelensky. Notre section magazine nous conduira à Yaoundé au Cameroun, où les chefs d'État d'Afrique centrale se sont réunis pour relancer l'économie.
C'est une partie de l'Afrique qui est totalement sinistrée sur le plan économique, parce que tous les pays de la CEMA traînent de très lourds déficits de la balance courante.
CAF Award 2024, Lookman Ademola sacré Ballon d'Or. Ce sera en sport juste après l'économie. Tout de suite, le journal. L'armée malienne a annoncé avoir capturé Amag Agdita, un chef de premier plan de l'organisation djihadiste État islamique au Grand Sahara, EIGS, lors d'une opération menée dans la région de Menaka à l'est du pays dimanche. Dans un communiqué, l'armée affirme que des unités engagées dans la région de Menaka ont capturé Amag Agdita, un chef de premier plan de l'EIGS. L'armée le présente comme responsable d'un grand nombre d'exactions et d'abus en tout genre contre les populations civiles innocentes et commanditaires d'attaques contre les forces armées maliennes. L'opération a également permis de neutraliser plusieurs combattants de l'EIGS et de récupérer du matériel militaire, y compris des engins explosifs improvisés. Toujours au Mali, la justice a confirmé hier en appel la peine de 2 ans de prison dans un ferme contre un universitaire auteur d'un livre critiquant les militaires au pouvoir, a indiqué son avocat, maître Ibrahim Marouf Sakou. Le point avec Eric Manirakiza.
Le chercheur et professeur à la faculté des sciences économiques et de gestion de Bamako est poursuivi pour atteinte au crédit de l'État, injure et diffusion de fausses nouvelles perturbant la paix publique. Étienne Fakaba Sissoko est mis en cause pour la publication en 2023 d'un livre sur la communication du régime militaire, caractérisé par des contenus au caractère douteux et des méthodes basées sur la propagande, l'agitation, la manipulation et même le mensonge, selon une fiche de lecture publiée sur le site de l'éditeur L'Harmattan. Monsieur Sissoko est ancien conseiller du président Ibrahim Boubacar Keïta entre 2013 et 2020, renversé par les militaires, et ancien analyste de l'ex-mission de l'ONU au Mali, MINUSMA. Il est l'une des rares voix critiques du pouvoir à encore tenter de se faire entendre de l'intérieur du pays. Monsieur Sissoko est détenu depuis fin mars et avait été condamné en première instance en mai à cette même peine. Son procès en appel avait été renvoyé plusieurs fois.
Au Burundi, une journaliste, Sandra Muoza, détenue depuis plus de 8 mois, a été condamnée lundi à 1 an et 9 mois de prison. Sa défense et sa famille ont dénoncé un dossier vide et envisagent de faire appel. Les détails avec Jean-Roger Billon.
Sandra Muoza, qui travaille pour le média en ligne La Nova Burundi, a été condamnée par le tribunal de grande instance de Mukaza à Bujumbura à une peine d'1 an et 6 mois de prison pour atteinte à l'intégrité du territoire national et à 3 mois pour avoir discrédité l'image du pays, a indiqué maître Eric Ntibandetse, l'un de ses avocats. Ces deux peines sont cumulatives, a-t-il précisé, se disant pas du tout satisfait par ce verdict parce qu'elle n'a commis aucune infraction. Cette condamnation est injuste, elle vient confirmer l'acharnement d'un pouvoir décidé à la punir pour ce qu'elle est, a dénoncé un membre de sa famille. Une peine de 12 ans de prison avait été requise le mois dernier pour des informations qu'elle avait partagées sur un groupe privé WhatsApp, avait alerté Reporters sans frontières. Les accusations portaient, selon l'organisation, sur un message où elle s'est fait l'écho d'une information relative à une distribution d'armes par le gouvernement. La journaliste n'enquêtait même pas sur l'affaire, selon RSF.
La communauté internationale ne comprend pas la gravité de la crise au Soudan, ravagée par plus d'un an et demi de guerre civile. C'est ce qu'a déclaré le coordinateur régional du Haut Commissariat de l'ONU pour les réfugiés, Mamadou Diagne Baldé. Michel Joseph nous en dit plus.
Selon le représentant onusien, les efforts diplomatiques ne sont pas à la hauteur des besoins. Je ne pense pas que le monde se rende compte de la gravité de la crise soudanaise et de son impact, a insisté Mamadou Diagne Baldé. Alors que l'année s'achève, le plan régional d'intervention du HCR et de ses dizaines de partenaires en faveur des réfugiés du Soudan n'est financé qu'à 30% sur un total de 1,5 milliard de dollars demandé, a relevé M. Diagne Baldé. Depuis avril 2023, le Soudan est ravagé par une guerre entre deux généraux, le chef de l'armée Abdel Fattah al-Burhan et Mohamed Hamdan Daglo, à la tête des paramilitaires des forces de soutien rapide. La fin de la guerre ne semble pas en vue, les deux parties en conflit ayant intensifié les frappes sur les zones résidentielles au cours des dernières semaines. Les deux camps sont accusés d'utiliser la faim comme arme de guerre et de bloquer ou piller l'aide humanitaire.
L'Organisation mondiale de la santé inaugure son académie ce mardi à Lyon, en France, un campus ultramoderne doublé d'une plateforme numérique dédiée à la formation continue des soignants du monde entier. Le chef de cette agence onusienne, Tedros Adhanom Ghebreyesus, présidera la cérémonie sur le site de ce centre de formation qui vise à améliorer les compétences des professionnels de santé à l'échelle mondiale en présentiel et via une plateforme numérique. L'Académie devrait atteindre 3 millions d'apprenants d'ici 2028. Elle intègre des technologies innovantes comme la réalité virtuelle et l'intelligence artificielle pour répondre aux besoins croissants du secteur de la santé, notamment face aux risques sanitaires et aux pandémies futures.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le président élu des États-Unis, Donald Trump, a déclaré hier vouloir parler à la fois au président russe Vladimir Poutine et ukrainien Volodymyr Zelensky pour arrêter ce qu'il a qualifié de carnage de la guerre en Ukraine. Jacques Aristide nous en dit davantage.
Il faut arrêter ça, c'est le carnage, a dit Donald Trump lors d'une conférence de presse hier à Mar-a-Lago en Floride. Une grande partie de ce territoire, quand on regarde à ce qui est arrivé, il y a des villes où il n'y a pas un bâtiment debout. C'est un chantier de démolition, les gens ne peuvent donc pas retourner dans ces villes, il n'y a plus rien, a ajouté le futur président américain. Donald Trump a été interrogé sur les territoires qui pourraient être négociés dans le cadre d'éventuels pourparlers de paix entre Moscou et Kiev. La Russie réclame une reddition de l'Ukraine avant de négocier la paix que Kiev cède à les cinq régions dont Moscou revendique l'annexion et renonce à rejoindre l'OTAN. Donald Trump a également indiqué que l'Ukraine devait s'attendre à probablement moins d'aide de la part de Washington. Par ailleurs, le président élu a défendu son choix de Robert Kennedy Jr. comme prochain ministre américain de la Santé sur fond de polémique autour de positions anti-vaccin de l'ancien avocat en droit de l'environnement. « Je pense qu'il sera bien moins radical que ce que vous ne pourriez penser. Je pense qu'il est ouvert d'esprit. » Ou je ne l'aurais pas mis là. Il sera bien moins radical », a assuré Donald Trump.
Toujours concernant Donald Trump, il a perdu hier une étape importante dans sa tentative d'annuler sa condamnation pénale pour paiement dissimulé à l'actrice Stormy Daniels. Le juge de New York, Juan Merchan, a rejeté son recours basé sur l'immunité présidentielle, arguant que les actes incriminés n'avaient pas de caractère officiel et ne pouvaient donc pas bénéficier de cette immunité. Le parquet sud-coréen a ordonné à l'ex-président Yoon Suk-yeol de se présenter d'ici samedi pour un interrogatoire concernant sa tentative avortée d'imposer la loi martiale sous peine d'un mandat d'arrêt. Suspendu depuis l'adoption de sa destitution par le Parlement, Yoon fait face à deux enquêtes pour rébellion. Par ailleurs, la Cour constitutionnelle a entamé l'examen de la procédure de destitution et doit statuer sur la validité de la motion des députés dans environ 6 mois. C'est tout pour les nouvelles. Vous suivez le journal sur VOA Afrique et voaafrique.com. Passons maintenant à notre volet économique avec une réunion de la CEMAC à Yaoundé et les inquiétudes de Washington face aux pratiques commerciales de Pékin. Nous invitons Eric Maniragiza.
Afrique centrale, session extraordinaire de la CEMAC face à la situation économique. Dans une analyse commune publiée en avril 2024, le FMI et la Banque mondiale dressaient déjà un constat sévère. Malgré des années de revenus pétroliers soutenus et d'augmentation des dépenses publiques, les revenus réels dans la CEMAC ont stagné au cours des trois dernières décennies et son économie reste largement trop dépendante du pétrole et avec un marché régional intérieur encore inexploité, dit cette note. Les États-Unis ont exprimé auprès de Pékin leurs inquiétudes concernant les pratiques non concurrentielles et la surproduction chinoise lors d'une rencontre entre responsables des deux puissances en Afrique du Sud, selon un communiqué du département du Trésor publié lundi. Washington a également exprimé d'autres motifs d'inquiétude, dont le soutien d'entreprises chinoises à l'effort de guerre russe en Ukraine. Le premier train à grande vitesse du jour reliant Paris à Berlin a pris le départ lundi à 9h55, avec pour ambition de répondre à la demande croissante de trains des Européens, de plus en plus nombreux à y recourir pour leurs déplacements internationaux.
À présent, plongeons au cœur de l'actualité sportive, principalement dédiée au sacre hier à Marrakech au Maroc, du Nigérian Lookman Ademola, qui a remporté le Ballon d'Or africain 2024. Découvrez également les autres lauréats. Nous appelons Yacouba Ouedraogo. Bonjour Yacouba, bonjour à tous.
Bonjour Namit, bonjour à tous.
Le Nigérian Lookman Ademola, désigné Ballon d'Or africain 2024.
Oui, c'était à la faveur de la cérémonie des CAF Awards qui récompense les meilleurs acteurs du football africain et qui a eu lieu hier à Marrakech, au Maroc. Le Nigérian Lookman Ademola a été sacré Ballon d'Or africain de l'année 2024 devant le Marocain du PSG Achraf Hakimi, le Guinéen Serou Guirassy, l'Ivoirien Simon Adengra et le gardien de but sud-africain Romwen Williams qui a remporté le prix du meilleur gardien de l'année. Lookman Ademola a été finaliste de la CAN en Côte d'Ivoire avec le Nigeria et vainqueur de l'Europa League avec son club italien l'Atalanta Bergame. Il a inscrit un triplé lors de la finale face au Bayer Leverkusen. Lookman Ademola succède ainsi à son compatriote Victor Osimhen, vainqueur en 2023 chez les dames. La Zambienne Barbara Banda a été récompensée devant la Marocaine Sana Mousdi et la Nigériane Chiamaka Nadozie. Elle succède à la Nigériane Aziza Oshuala. L'entraîneur des éléphants de la Côte d'Ivoire, Emes Faye, a été élu coach de l'année. Le prix du meilleur jeune joueur de l'année est revenu au Sénégalais Lamine Camara, qui réalise le doublé selon notre consultant Amdine Sy.
C'est un doublé, hein, puisque Lamine Camara avait remporté le même prix l'année dernière. Donc je pense que Lamine Camara le mérite amplement parce que c'est un jeune joueur qui est en train de monter en puissance. Il a été formé à Génération Foot. Après, il est allé au FC Metz. Il a tellement brillé que Monaco l'a recruté. Maintenant, il est à Monaco. Et au niveau de l'équipe nationale du Sénégal, il est devenu un titulaire indiscutable. Il est même en train de pousser un certain Gane Gueye à la sortie.
Amdine Sy, consultant sportif pour ce qui est de la meilleure joueuse de l'année, la Marocaine Doha El Madani a été récompensée, méritée selon Amine Birouk, notre consultant à Casablanca.
Formée à l'AS FAR, club le plus important du Maroc sur le football féminin, international U17, international U20, elle a disputé deux Coupes du Monde consécutives, elle a été surtout meilleure buteuse de la dernière édition de la Champions League avec ses réalisations. Elle apparaît au moment où plusieurs joueuses du club sont en partie exporter leur talent en Europe, et en particulier l'ex-capitaine sur Rizan Chebec, et aujourd'hui elle est appelée à prendre la relève petit à petit d'une équipe marocaine qui est en train de vivre une mutation et qui accueillera la CAN pour la deuxième fois consécutive en juillet prochain.
Amine Birouk, consultant sportif à la Ligue d'Égypte, a été désigné meilleur club africain de l'année.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voaafrique.com. Nanit Talani, toujours en votre compagnie. De l'Afrique centrale, avec des défis économiques auxquels font face les pays de la sous-région, aux initiatives des femmes qui ont dominé l'artisanat à la 3e édition du Salon international de l'artisanat pour la femme, SAFEM, sans oublier l'impact des politiques économiques sur les États-Unis sous la présidence de Donald Trump. Restez avec nous pour nos dossiers du jour. Les chefs d'État des pays de l'Afrique centrale se sont réunis en sommet extraordinaire hier à Yaoundé. Ils se sont penchés sur la situation économique de leur sous-région. Une situation préoccupante qui a amené le président camerounais Paul Biya à appeler à une action urgente en ouvrant le sommet. Pour une analyse, Mohamedou Oumfa a joint à Yaoundé au Cameroun l'économiste et statisticien Dieudonné Essomba.
C'est une partie de l'Afrique qui est totalement sinistrée sur le plan économique, parce que tous les pays de la CEMA traînent de très lourds déficits de la balance courante, un lourd endettement et maintenant l'épuisement des réserves d'échange. Donc c'est des pays qui, du point de vue de leurs échanges à l'extérieur, sont très très mal en point. Donc je crois qu'il était impossible de continuer sans que nous ayons une perspective de mesures drastiques, sinon les pays vont tous entrer en situation de paiement.
Alors, à court terme, selon un communiqué de presse de la présidence camerounaise, la situation critique de la CEMAC compromet le décaissement des appuis budgétaires du FMI au profit du Cameroun, du Congo et de la, RCA. Est-ce que ce n'est pas là, en fait, la principale inquiétude des dirigeants de l'Afrique centrale? Est-ce que ce n'est pas en réalité parce que le FMI met pression que ces chefs d'État se sont réunis?
Oui, il y a la pression du FMI. Le problème, c'est que les interventions du FMI visent à restaurer les équilibres macroéconomiques de chaque pays, à savoir d'abord l'équilibre budgétaire en interne et l'équilibre extérieur à l'externe. Le rôle du FMI, de permettre au pays d'être à même de rembourser ses engagements extérieurs. Mais lorsque le FMI se rend compte que, malgré ses appuis, la situation ne fait que se dégrader, il est évident qu'il ne peut que durcir sa thérapie et donc il ne peut aller qu'en conflit avec les politiques du pays parce que le FMI, il n'a que deux méthodes, soit les politiques d'austérité interne, c'est-à-dire vraiment la réduction du plan de vie l'État, la réduction des salaires, la réduction des dépenses sociales et ainsi de suite, soit alors la dévaluation. Il n'y a pas d'autre solution.
Justement, différents médias ont évoqué ces derniers jours la possibilité d'une dévaluation du franc CFA, mais selon le communiqué de presse de la CEMAC, aucun ajustement monétaire n'est à l'ordre du jour. Qu'en pensez-vous?
Si les pays de la CEMAC refusent la dévaluation, est-ce qu'ils sont prêts à recourir à des politiques d'austérité? Est-ce qu'ils peuvent politiquement supporter la baisse des salaires? Ça, la question. Si on ne dévalue pas, on est obligé de recourir à l'ajustement interne, c'est-à-dire aux politiques d'austérité. Avec tout ce que ça comporte, de misère de la population, de baisse des salaires, c'est un problème de choix.
Ces mesures d'austérité, on imagine que c'est des mesures à court ou moyen terme. Qu'est-ce qu'il faut faire structurellement pour remettre l'économie de ces pays de la sous-région dans les rails?
Du point de vue du pilotage économique, un pays, surtout en développement, doit avoir trois leviers, c'est-à-dire la politique monétaire que nous n'avons pas, la politique commerciale qui a pratiquement disparu avec les engagements qu'on a signés avec l'OMC, les APE ou bien la zone de libre-échange, et enfin la politique budgétaire qui reste la seule. Or, la politique budgétaire est très insuffisante. Donc, il faudrait restaurer un mécanisme qui donne au moins un substitut de politique commerciale et politique monétaire, comme j'avais proposé la monnaie binaire, c'est-à-dire une sorte de monnaie complémentaire qui pourrait jouer ce rôle. À côté de ça, il y a évidemment les problèmes de gouvernance. Il faut être plus rigoureux.
Dieudonné Essomba, économiste et statisticien.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui. Retrouvez-nous aussi sur Internet, Facebook et sur votre portable.
Au Niger, la 13e édition du Salon international de l'artisanat pour la femme, SAFEM, a pris fin ce week-end à Niamey, la capitale. Il s'agit d'un rendez-vous biennal qu'organise le pays pour promouvoir l'artisanat féminin. Cette année, le Burkina Faso et le Mali ont été, avec le Tchad, les pays invités spéciaux de l'événement. Reportage de notre correspondant Abdoul Razak Idrissa.
Dans la délégation malienne venue au SAFEM 2024 figure Modibo Sidibé. C'est sa première participation avec ses articles, des emballages et chapeaux faits à base de fibres végétales produites et développées localement.
On appelle le kenaf, qui est produit pour ces longues fibres-là. Donc, on se sert pour faire tous les emballages biodégradables à usage agricole et puis à l'usage de shopping pour réduire l'utilisation des déchets plastiques non biodégradables. J'ai tout vendu. J'ai également eu des relations avec des partenaires qui tirent chapeau aux ordinateurs, ceux qui ont passé à créer sa ferme.
Madame Kinyewe Drago Yvette fait partie, elle, de la délégation burkinabé. Elle a exposé des produits dérivés du célèbre tissu Faso d'Amfani.
Dans l'ensemble, je trouve l'organisation d'abord très bien, ça me convient. Et dans l'ensemble, tout se passe bien, étant donné que les gens ont beaucoup apprécié ce que j'ai amené comme produit. J'ai amené du Faso d'Amfani, également j'ai amené du Coco Donda. Le Faso d'Amfani, c'est le fil teint qu'on a tissé. Et le Coco Donda, c'est le tissu neutre qu'on a teint. Et les participants ou les invités ont vraiment aimé mes produits. J'ai amené en grande quantité et aujourd'hui, tout est presque fini. Donc, je ne fais qu'apprécier.
La participation de ces pays invités spéciaux a permis à l'édition du SAFEM cette année de réussir au-delà des objectifs initiaux des organisateurs, Yacouba Mahamadou est le directeur d'exploitation du salon.
Si on parle de Burkina, ils sont ici avec plus de 80 exposants. Ils ont contribué et d'une manière ou d'autre, en tout cas, à la réussite de cette édition. Nous sommes très satisfaits parce que nous avons même dépassé les objectifs que nous sommes fixés en termes de participation des visiteurs, en termes de participants d'exposants, et vraiment, sur tous les plans, on peut le dire, un succès, un plein succès.
Témoignage de Maria, une visiteuse des stands du salon.
C'est très agréable. Si tu rentres, tu vois ce que les femmes nigériennes sont en train de faire et les autres pays qui sont venus faire leur exposition. On ne peut que venir les encourager. Donc, on peut dire merci aux SAFEM qui encouragent ces femmes promotrices pour pouvoir leur donner l'occasion de présenter ce qu'elles sont en train de faire.
Prochaine édition du Salon international de l'artisanat pour la femme SAFEM dans 2 ans avec toujours pour objectif de promouvoir et valoriser le génie créateur des femmes artisanes pour leur autonomisation. Abdulrazak Idrissa pour VOA Afrique, Niamey.
Vous êtes bien sur VOA Afrique, à Niamey au Niger, sur le 102.5 FM 24h/24.
Target Malaria, un consortium de recherche à but non lucratif, a lancé un jeu vidéo gratuit intitulé Target Malaria, le jeu au Burkina Faso. Ce jeu vise à sensibiliser le public au potentiel des moustiques génétiquement modifiés comme outil contre le paludisme. Toutefois, l'utilisation de moustiques OGM suscite des controverses, certains craignant que cette technologie ne crée une dépendance technologique, négligeant ainsi des solutions locales comme l'amélioration des infrastructures sanitaires. Pour en parler, Alexandrine Rolognon a joint Morgane Danielou, directrice de la communication globale chez Target Malaria.
Eh bien, on travaille sur la modification génétique du moustique. Et au fur et à mesure des années, on s'est rendu compte que c'est assez difficile à expliquer au public, en fait, comment fonctionne la modification génétique. Et on reçoit beaucoup de questions sur comment ça se passe dans le laboratoire. Comment fait-on cette modification? Et donc, en travaillant avec les scientifiques de nos insectariums et qui font eux-mêmes les modifications génétiques, ils nous ont décrit chaque élément et on s'est dit que ce serait une façon parfaite en utilisant une simulation avec un jeu vidéo pour montrer comment le travail est fait par les scientifiques dans les laboratoires.
Le lancement de ce nouveau jeu, Target Malaria, le jeu, rime aussi avec la sortie du dernier rapport de l'OMS qui parle de la mortalité due au paludisme qui est redescendue à son niveau pré-Covid. Est-ce qu'on peut dire que c'est la preuve que les moyens déployés ces dernières années pour la lutte contre le paludisme a plutôt des résultats positifs, surtout en Afrique ?
J'aimerais pouvoir vous dire oui, mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Parce qu'en fait, la situation sur le paludisme actuellement en Afrique, c'est qu'on est dans une situation de plateau. C'est-à-dire qu'on a pu, dans les 20 dernières années, avec les outils actuels, en particulier les moustiquaires imprégnés et les insecticides, on a pu vraiment réduire énormément le nombre de cas et la mortalité, mais on est toujours dans une situation où le fardeau du paludisme est absolument considérable en Afrique. Les pays endémiques représentent 95% des cas de paludisme et des cas d'infection et de mortalité dans le monde entier.
En effet, les scientifiques alertent contre la résistance du paludisme au traitement. Les autorités de Djibouti ont été le deuxième pays, si j'ai bonne mémoire, a relâché récemment des moustiques génétiquement modifiés pour lutter notamment contre cette résistance aux insecticides. Ces moustiques OGM sont parfois perçus comme controversés, où les groupes de défense de l'environnement et les militants mettent surtout en garde contre les conséquences pour les écosystèmes et les chaînes alimentaires existantes. Que répondez-vous à ces critiques ?
Eh bien, en fait, pour Target Malaria, on ne développera jamais et on ne mettra pas à disposition des pays endémiques un outil que nous jugerons potentiellement risqué. Et on prend le temps vraiment de développer cette technologie pas à pas et on prendra tout le temps nécessaire pour prouver et démontrer et trouver des solutions pour qu'elles soient vraiment efficaces et complètement sûres.
Morgane Danielou, directrice de la communication globale, chez Target Malaria. Restez branchés sur VOA Afrique à Ouagadougou sur 102.4 FM au Burkina Faso. L'économie a été l'une des principales préoccupations des électeurs lors de l'élection présidentielle américaine de cette année. En attendant le retour au pouvoir de Donald Trump, de nombreux Américains disent qu'ils s'attendent à ce que l'amélioration de l'économie soit l'une de ses premières priorités. Un sujet de Scott Stearns, récit Claire Mouret-Gibourg.
L'accent mis par Donald Trump sur l'économie au cours de sa campagne a été repris dans son discours de victoire.
Je ne me le poserai pas tant que nous n'aurons pas rendu l'Amérique forte, sûre et prospère que nos enfants méritent et que vous méritez.
Alors que tant d'électeurs sont concernés par l'économie, EpiVodcast constate que la part des électeurs qui déclarent des revenus familiaux en baisse a augmenté par rapport à il y a 4 ans.
Et sur l'économie, dit Ashley Krisinger de Family Foundation, plus de gens ont choisi Trump. Un message écrasant des électeurs, entendu clairement du côté des perdants aussi.
Ils veulent que nous nous concentrions sur les questions importantes et que nous nous rassemblions pour résoudre les problèmes des contribuables américains qui travaillent dur, en commençant par réduire les coûts de ceux qui luttent pour survivre d'un salaire à l'autre.
Au Nouveau-Mexique, Judy Evans dit qu'elle a choisi Trump parce que les prix sont trop élevés.
L'inflation m'a certainement affecté. Ma facture d'épicerie a doublé au cours des 2 dernières années. Ma facture d'électricité et ce genre de choses ont beaucoup augmenté.
En Caroline du Nord, Aaron Anderson admire le bilan de Trump en matière d'économie.
Eh bien, Trump, il va tout relancer pour nous. Ça marchait bien quand il était là avant. Et il va nous remettre sur les rails.
L'électeur Charles Boudreau attend une action rapide de la part de la nouvelle administration.
Il y aura moins de réglementation. Ils dépenseront plus dans leur domaine particulier. Les gens auront plus d'argent et dépenseront plus d'argent. Le prix de l'essence va baisser.
Selon Michael Weber, professeur de finance, les consommateurs américains ne verront peut-être pas un changement aussi rapide.
En fin de compte, un président à court terme, indépendamment de qui est à la Maison-Blanche, a très peu de prix sur la politique économique à très court terme, mais aussi spécifiquement sur les prix des produits alimentaires auxquels nous sommes confrontés dans notre vie quotidienne.
Le programme économique de Trump comprend plus de forages pétroliers, moins d'impôts et des droits de douane sur les importations dont la plupart des économistes pensent qu'ils se traduiront par une hausse des prix pour les consommateurs américains.
Nous voici au terme de cette session du Monde aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. À la présentation, Nanit Talani. Passez une excellente journée. À bientôt.